Okay, so we start the recording. And welcome to everybody. Please, I can see some people who just joined who are not muted. Mr. Ali Mohamed from Djibouti, welcome.
Thank you.
Could you please mute your mic? Fred, please mute your mic. Otherwise, yeah, so Ephraim, I guess we can start. It's time. So over to you, Ephraim.
Okay, thank you, Krishna, for coordinating this. And good morning, good afternoon, everyone. This is Ephraim from AUDA in APAC. So today I'm going to present to you the PIDA Job Creation Toolkit. Some of you might have seen this tool or have a presentation on the Job Creation Toolkit before, but for the sake of those who might have I will go through all the slides and also what we are currently doing when it comes to enhancing the Job Creation Toolkit. So in general, the Job Creation Toolkit aims at maximizing jobs during the whole cycle of the infrastructure project development. And this is a Job Creation Toolkit specifically for infrastructure projects. And the toolkit has four different modules. The first one is the job estimation module. We call it the job estimation module that estimates a number as well as the type of jobs that an infrastructure project creates. So it helps project owners, technical partners, government policymakers to help them understand the full spectrum of jobs that a particular infrastructure job can create. And this can be of direct jobs, which is a job during the preparation and construction phase of the project. Indirect jobs, these are jobs by suppliers of to the project, for example, factories where cements are produced as an input to the construction. So those are also counted here as indirect jobs. And then induced jobs that are jobs created by the spending of the direct and indirect workers in the project. And finally, it also partially estimates the secondary jobs, which are the result as a result, jobs created as a result of the existence or the operationalization of the infrastructures in place. So that means once improved infrastructure is in service, then more jobs will be created because of this economic spillovers. The job estimation module, the first module, also disaggregates the jobs by economic sectors, as well as it gives the facility to maximize jobs by varying or by creating various scenarios in terms of only the project inputs, so sourcing of the inputs into the project from where the material or the skilled manpower is going to be sourced. So by varying this, then we can see the country and the location of the estimated jobs where they will be. So the disaggregation is not only by economic sectors, also if since we are talking about regional projects here, it also disaggregates by country. And then the second one is called the job projections module. This is simply a presentation module where projects that are jobs that are created, and the individual projects will be aggregated and shown on a map, on African map, displaying which countries have produced jobs as a result of infrastructure development. So that's just more of aggregation and presentation tool. The third one is the job maximization interventions. And this one explores the possibilities of increasing the number and quality of jobs by providing a range of job maximization policies, guidelines, programs, etc., from elsewhere in the world, so that project owners can utilize the best practices that are out there, learning from them and applying them in their projects in order to maximize. So we have various actions that need to the project owners need to take as a lessons learned from elsewhere. The fourth, sorry for the number, is the case studies. And here we have, we provide examples from both developing and developed countries that leverage existing project and policy interventions. So this is the idea, like showing, you know, showcasing infrastructure project, jobs created as a result of infrastructure projects, and also the interventions that are made in increasing infrastructure projects and maximizing infrastructure projects. So far, we have only one case study, but as we go along, more case studies will be made available. But the rest of the modules, they are active and running at the moment. The job creation toolkit utilizes what we call input-output tables, covering all African countries. You want me to stop here?
Frem, I think, yeah, I think it would be good if, because some people have asked, Shri TV, for example, maybe I'll do a quick summary in French. Donc, pour les nos amis francophones, je vais juste faire un petit rappel. Bon, peut-être que ce qu'on va essayer de faire, en fait, on va essayer de traduire la présentation qui va être postée sur le site. Ephraim, do we have a French translation of this?
No, no.
Okay, so with this can be arranged. We can try to, we will translate the presentation and post it on the website. So, donc, je vais juste résumer rapidement en français, en fait, les points clés de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Donc, cette boîte à outils, en fait, a été créée par Ardan et Pad. Et elle a quatre modules, en fait. Et la première, c'est le module qui sert à estimer, en fait, le nombre d'emplois créés. Suivant les paramètres de base du projet, en injectant ces paramètres, cet outil qui est basé en fait sur des benchmarks, sur des cas des références, permet d'estimer le nombre d'emplois et le type d'emploi. Donc c'est soit des emplois directs, soit et aussi des emplois indirects, donc les emplois secondaires par effet ricochet, etc. Donc, la deuxième, donc c'est, on permet de visualiser, en fait, il y a une fonction qui s'appelle simulation de scénario, qui permet de simuler, en fait, des différents paramètres pour voir dans quelle mesure on maximise la création d'emplois dans les secteurs. Le deuxième module, c'est un module de présentation graphique. Donc, quand vous avez des projets régionaux, ça montre en fait où les emplois, dans quel pays les emplois sont créés. Comme une route, par exemple, qui traverse plusieurs pays, où sont les créations d'emplois. Le troisième module concerne en fait plus destiné aux décideurs politiques, qui sert à guider, en fait, à informer les décideurs sur les baisses, les politiques au sens policies, les guides, les best practices, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui se fait de mieux par ailleurs dans d'autres pays, même d'autres en dehors d'Afrique. Et finalement, le quatrième module, c'est un module d'études de cas, à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement. Encore une fois, ça permet d'apprendre, de voir, d'apprendre à travers des exemples, des cas précis de projets d'infrastructure où il y a eu, où la création d'emplois est analysée. Voilà. Donc ça résume ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Over to you, Ephraim.
On va
prendre les questions après. On va prendre, notez vos questions, ou bien mettez-les dans le chat. On va reprendre si vous n'avez, s'il y a des choses qui sont pas claires, on va les reprendre après. Yes, Ephraim. Okay.
So the job creation toolkit utilizes two kinds of inputs. One of them, and the main one, being the macroeconomic data and bilateral flows between countries. And this is data or input-output data taken from what we call the Global Trade Analysis Project, GTAP database. So this is how it looks like. Overall, it's the estimation process works like this. So the one on the top, the input-output analysis, is a macroeconomic modeling via the input-output table of the national of the countries, goes into the toolbox. And then for a project specific, then we have investment costs broken down by the industry ratios, depending on how much a project investment can be, is broken down in terms of labor costs, cement costs, equipment, and so on. So we need to provide that information for that specific project into the toolkit. And then with the input-output toolkit, with the input-output tables, then it generates for us the toolkit output, which are the direct, indirect, induced secondary jobs in the economic sectors and in the countries. So that's how overall the toolkit works. Can I move on?
Yes, please. I will translate later.
Okay. So this is a little bit more detailed slide, more technical slide when it comes to the input-output table utilization. So input-output table in general is an economic model depicting the interdependencies between economic sectors of national economy or different regional economies. And they are used to estimate the impact of positive or negative economic shocks. And it's known that investments in infrastructure always produce positive economic shocks and brings a positive economic shock. So the input-output table assumes that some inputs in investment infrastructure will induce produce outputs in a different sector, which will be an intermediate output, which in turn will be sold to another sector and finally produce the final output. So the total output adds all the intermediate outputs and produces the final output. So that's how the methodology of the toolkit works. So finally, by using the labor productivities, one can simply calculate the jobs that are created throughout the whole process. So if you see the diagram up, the top left box here shows what we input into the toolkit. And then with the input-output tables, then goes through the process and finally produce the direct and indirect jobs, which is this box here on the right hand side. And then at the bottom here, where the once the infrastructure is in place, then when it is being put into use, then it triggers the opening of new businesses, production increases, imports and exports increase, And that actually creates a lot of jobs. That's what we call secondary jobs, produces the jobs resulting from secondary jobs, which is on the right hand side. So that is the overall methodology of the toolkit.
Okay, so maybe I can before we go further. Alors, je vais reprendre. Do you hear me? Yeah, okay. Je vais reprendre en fait quelques points, un petit résumé en français. Alors, Ephraim a présenté en fait la façon dont le module. Maybe you can go back one step, Ephraim, the slide. Yeah. En fait, l'outil est très simple. Elle est basée sur deux types de données. La première est liée au projet lui-même. Par exemple, le coût du projet, la répartition du coût entre les matériaux de construction, les équipements, l'ingénierie et la partie plus manuelle. Et même dans la répartition en fait dans les détails en fait, hein, combien de tonnes de ciment, de tonnes de fer, etc. par rapport au projet. Et ça c'est directement lié au projet, mais il y a une deuxième type qui est lié plus au contexte du projet, donc au contexte macroéconomique du pays, de la région où se trouve le projet. Et c'est ça qui permet de modéliser, de récupérer en fait les effets de levier, les facteurs de productivité, etc., qui fait que un projet d'infrastructure aura des impacts différents suivant le pays ou la région où elle est implémentée. Ok, donc voilà en gros les deux types de paramètres qui permettent de caractériser en fait d'informer en fait de qui permet à ce modèle, à cette boîte à outils, de sortir des chiffres sur les emplois directs et indirects. Next slide, Ephraim. Yeah, donc en plus de détails, vous allez voir en fait comment ça se fait, il y a la valeur ajoutée, etc. Donc, vous allez voir en fait dans la case en bas qu'il y a en fait l'impact direct du projet lui-même, donc la construction, etc. Et puis il y a l'impact des effets en fait de cette infrastructure. Par exemple, si c'est une route, ça va générer plus de possibilités de commerce. Si c'est une centrale électrique, etc. Ça va augmenter la production électrique, la consommation électrique, qui va elle-même générer plus d'emplois, donc des effets d'entraînement. Voilà. Maybe Ephraim, I'll have a question on the leakages. Actually, I can see that maybe we can take this question later. Try to think about it. What about leakage, economic leakages in terms of imports? How is this model, for example, material or equipment which are fully imported, not transformed, and also people. In many cases, you have actual people from countries who come to implement. So what about are these also modeled? Maybe we can take this, note this as a question, and then we'll address it later. Over to you.
Okay. Yes, those are modeled in here as an input, because when we supply the toolkit with the investment, we have to break it down by the total investment has to be broken down in terms of different kinds of inputs. It could be labor, material, equipment, and then each one of them then will be then further broken down from where they are coming from, and the proportions of them, because not all the material comes from one particular location, so it can be multiple locations. So we need to have that information supplied to the toolkit to produce the outputs. But the thing is, since most of the time this information may not be available, there is a benchmark study that we have done for each of the subsectors that we have introduced those benchmarks into the toolkit so that one can just utilize them as a starting point and get the numbers, the estimated jobs, and then later on refine them.
Okay.
So we use those industry benchmarks as a starting point, and then we further refine those.
Okay. Good. Yeah.
So this is what the interface of the landing, the homepage of the toolkit looks like, with the four modules that I have described earlier: the job estimation, the job projection, the maximized jobs, and the case studies. I'll just go through the toolkit quickly live later on at the end of this presentation. So I'm going to show you quickly some outputs for a sample project that we have produced or estimated jobs. This is for Batoka Gorge Hydroelectric Power Scheme. And as you can see on this table, we have the direct, indirect, induced, and secondary jobs at the different stages of the project: preparation, construction, operation, and the total numbers. And this is an example of the investment by country sources. For example, for this project, Batoka Gorge, we have investments spent in Africa, which means now it divides investments within Africa and from outside Africa. So we have for this project, for example, Zimbabwe, Zambia, and South Africa, and it gives you the proportions of the investment spending for that project at different stages of the project. And this now actually is very interesting because it shows you the investment leakage and the jobs that are created outside the continent. And it gives you the overview of that as well, which you can later on change the configuration so that you can outsource some of the inputs, labor or material, and see how you can increase the number of jobs, the local jobs, by using this other tool, like I mentioned, the scenario manager in it. And this is an example of the job estimates by economic sector, again divided by the countries, like Zambia and Zimbabwe. And these are the economic sectors that are covered in the toolkit, and it just gives you the numbers of the jobs created in the different phases: preparation, construction, and operation and maintenance by economic sectors. And this is one of the outputs. Actually, the job creation toolkit has so many outputs. It actually produces a full report on the jobs with a lot of guidelines as well. You can go ahead, Krishna.
Yeah, okay. So Efrem nous a présenté, en fait, si vous voyez cette page-là, cet outil, en fait, est disponible en ligne. Donc, maybe Efrem, what was not clear also is the URL, actually, the address. How do we access this tool? Well, what is the, should we go to the VPIC website first, and then we click on toolkit?
Yes, I will show at the end during the demonstration.
Okay, yeah, so Efrem va nous montrer cette slide. Yeah.
Yeah.
Voilà. So this, ça c'est l'adresse. Jobs.org, etc. jobsaudapi.org. Ça, c'est l'adresse où l'outil est accessible. Vous allez pouvoir utiliser cet outil en ligne. Elle est disponible. Et en fait, il y aura une démo à la fin sur le site lui-même. Mais là, pour le moment, on regarde la présentation. Donc, voilà les quatre modules dont je vous ai parlé, l'estimation, les projections, maximisation et les études de cas. Vous allez voir les quatre boîtes en noir. Next, FM. Ensuite, vous avez, ça, c'est des exemples, en fait, d'estimation, où vous allez voir qu'il y a l'estimation des nombres d'emplois est répartie suivant l'étape de préparation de projet, donc tout ce qui est conception jusqu'à l'étape de validation par les autorités et tout ça. Ensuite, il y a la construction en elle-même et finalement l'opération et la maintenance. Donc voilà les trois phases d'estimation des emplois. Alors, next, FM. Ça, c'est d'autres exemples de beaucoup où on peut même détailler en fait les pourcentages de coûts, etc. Les coûts suivant le coût total du projet, le coût pendant la construction, le coût pendant l'opération maintenance et le coût pendant la durée de vie du projet. Et la répartition parmi les pays participants. La répartition de l'investissement. Et finalement, ça, c'est un exemple, en fait, de l'estimation des emplois par secteur économique. Vous allez voir que il y a des effets induits dans la plupart des secteurs à travers certains projets. Ephraim, this example which you're showing, can you tell us which is it a transport project?
Is it Batoka Gulch Hydro?
Okay. Ça c'est l'exemple de Batoka, le barrage hydroélectrique. Voilà en fait comment on a évalué les emplois créés durant la phase de construction, préparation, construction et opération dans les différents secteurs. Vous allez voir par exemple même un barrage crée de l'emploi dans le secteur agricole parce qu'il faut nourrir les ouvriers, les personnes qui travaillent sur le projet pendant la durée du projet, la durée de construction. OK? Donc, next, Ephraim? Okay. I think now you continue, please.
Okay. So let's now talk about the job creation toolkit limitations. Of course, it cannot do everything and anything. So as a scalable estimation, job estimation model, the toolkit obviously automates the process, and it's much better than doing similar studies or one-off similar studies or infrastructure projects, which requires very long time and a lot of resources. So it is a quick way of estimating and of jobs. And the other thing is the toolkit foundations are, as I said, input-output matrices, and it is based. Currently, the toolkit utilizes GitHub database with the reference year of 2011, because this input-output matrices or database does not come out quickly, so they need to do a lot of studies and analysis before they produce a new version. So the toolkit, when it was developed, the latest stage of GitHub database was 2011. So it's based on that. But last year, a new version of the GitHub database has come out, which is a reference year of 2014. So there is currently the toolkit is being upgraded with the new set of input-output tables for the countries. So that's one of the limitations right now, but this will, as we go ahead in the future, this will be a limitation because it has to be kept updated in the future. So the methodology, the input-output methodology, depicts the static view of the country, of the economy, potentially underrepresenting and the spillover effects. So that's why I say the secondary effects are only partially estimated. So that's another limitation because we don't anticipate that it covers all aspects of the spillover effects in the model, but that also is something that needs to be refined in the newer versions of the toolkit. And the other thing is the accuracy of the toolkit. This is very important, is a function of the quality of the data that is inputted. So it means like garbage in, garbage out. So one has to be very careful in terms of providing the investment cost. So if you have a very rough idea about how much the construction cost is, then the estimates will also be very rough. So the more accurate data you supply and the more accurate you provide how that investment is broken down into the various elements of the cost, then you will have a better quality output. So also the job estimates that are generated from this tool are simply the potential, but actions to realize jobs are obviously required on the ground. So this is another thing. So one should not take it for granted that those numbers will actually exist because they have to be implemented. Only 9 subsectors are covered right now in the current toolkit, but there is also work going on right now to expand the number of subsectors covered in the toolkit. So just to cover some of those enhancements that are taking place right now, the upgrading of the job creation toolkit is taking place with the aim of updating the input-output tables, like I said before, of all the countries as per the 2014 reference year GTAP database, which came out last year. And then add the capability to estimate jobs for more subsectors, you know, instead of only 9, enhancing the scenario manager, because there are some limitations of the scenario manager we have observed, so we want to expand that as well. We then also intend to refine the estimation outputs, like disaggregation by gender, age, and occupation, because currently the toolkit does not do that. And then also improve the usability of the interface, the user interface, because we have already gotten feedback from users how they would like to see the toolkit enhanced also in terms of interactivity. So this is work ongoing, and except the capability to estimate additional job, the capability to add more subsectors, the final toolkit is expected to be ready by next year, January, February, but the capability to add additional subsectors should be ready for the IDAPAP to screening process, because this tool is going to be used for estimating jobs, as I will have slide on that in the coming slides. But by the time that projects are submitted to AUC and then the screening is applied, then this capability, this specific capability of additional subsectors will be in place, because that work is currently being done for the screening to happen.
Yeah. Alors, je vais peut-être reprendre les éléments français. Alors, les limitations, en fait, de cette boîte à outils, il y a en gros 5 limitations. Il y en a une qui est liée aux données. En fait, les données qui sont utilisées dans les matrices input-output, donc entrée-sortie, comme je vous disais, les données macroéconomiques sont issues de la base de données GTAP, GTAP de 2011, et c'est en train d'être actuellement rafraîchi par les données de 2014. Donc ça, c'est une première limitation qui est en train d'être partiellement adressée. Deuxièmement, les effets secondaires, les emplois secondaires sont en fait, je dirais, sous-estimés, c'est-à-dire de volontairement sous-estimés, donc une approche très conservateur du nombre d'emplois secondaires pour ne pas, je dirais, gonfler les chiffres. Troisièmement, vous réalisez que ce n'est qu'un modèle, hein. Donc, la sortie dépend entièrement de la qualité de ce qu'on met à l'entrée, la qualité des données, la fiabilité des données, la précision des données. Donc, plus les données à l'entrée sont précises, par exemple, en termes de plus les résultats seront fiables, seront précis. Quatrièmement, toutes les estimations ne sont que des potentiels d'emploi. Bien sûr, pour les réaliser, il faut vraiment que les conditions soient réunies et que toutes les conditions soient réunies pour que ces projets soient créés. Et finalement, il n'y a que 9 sous-secteurs. Vous savez, PIDA, il y a 4 secteurs d'infrastructure. Chaque secteur a 3 ou 4 sous-secteurs, donc une quinzaine de sous-secteurs potentiels. Pour le moment, il n'y a que 9 qui sont couverts, mais il y a un travail d'amélioration qui est en cours pour s'assurer que d'ici 2 mois, où tous les projets PIDA seront soumis, tous les sous-secteurs de PIDA, PAP2, seront couverts par cet outil pour permettre l'évaluation des emplois. Parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est l'outil qui va être utilisé pour évaluer le critère emploi de PIDA, qui est un des 8 critères. OK, so maybe next slide. Voilà, donc en fait, on a, c'est ce que je viens de dire, il y a un upgrade en cours. So maybe over to you, Ephraim.
So the next slide is about the job toolkit being used for the PIDA-PAP2 process project selection. Like I said, the project scoring on job creation, which do not produce the highest number of annual jobs per million of USD spent, receive rounded up score, the proportion of the project with the highest job creation. Basically, what we're saying is we just, since the amount of investment and the number of jobs vary from project to project, we simply have to normalize, standardize the scale so that the highest number of jobs per unit per million of dollars spent will be the criteria to rate projects in terms of job creation. So this is just one example of a project creating 200,000 annual jobs per a million of USD spent, when the project with a high job creation per unit of 1 million creates 300,000 jobs, then we just do the standard, the normalization, and then based on that, the project with the highest number of jobs will get the maximum point, which is 5 points, and then accordingly, the other projects will get the rating just using that same scale. So basically, this is what it is about. The job creation toolkit and the intended use for the selection of PIDA-PAP2 projects. So before I move to showing the toolkit online briefly, maybe just do a translation on this and we switch to the online.
Yes, merci. Thank you, Ephraim. Merci. Alors, ce que Ephraim vient d'expliquer, c'est en fait, c'est très important. En fait, moi, je vais résumer rapidement. Comme vous savez, comme je vous ai dit, il y a 8 critères qui sont une fois que les projets sont admis. Donc, un petit rappel rapide, vous avez des critères d'éligibilité. Donc, il faut que les projets soient régionaux, soient dans les master plans, soient dans les plans directeurs, les REX, etc. Mais une fois qu'ils sont admis, ils sont admis à jamais. Donc, si le projet est éligible, il est éligible. Donc, il rentre dans ce qu'on appelle une longue liste. Ensuite, il y a 8 critères qui sont utilisés. Là, il faut faire ressortir que c'est dans le pool régional. Même si les projets sont soumis à travers les REC, par les REC, validés par les REC, la sélection, le shortlisting, la liste prioritaire des projets est établie en fonction du pool régional, donc des 5 régions. Un exemple, je crois qu'il n'y a que 2 régions où il y a un REC par rapport à la région, c'est ECOWAS pour l'Afrique de l'Ouest et ECAS pour l'Afrique du Centre. Tout le reste, il y a des chevauchements, il y a plusieurs REC dans la région et tout. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'appartenance à la région qui va déterminer le pool. Donc, tous les projets, par exemple, dans le pool Nord, seront évalués entre eux. Et 3 des 8 critères sont des critères proportionnels. Ça veut dire que on va d'abord évaluer tous les projets dans le pool. Et l'emploi est un de ces critères proportionnels. Les autres sont le climat et la connectivité rurale. Donc, on va évaluer tous les projets par rapport à leur potentiel de création d'emplois dans le pool régional. Ensuite, le meilleur projet aura une note de 5, qui est la note normalisée qu'on utilise à travers tous les critères. Et tous les projets dans le pool seront notés proportionnellement plus bas. Donc 4,5, 3, 2, etc. en fonction de la distance par rapport à le meilleur projet par rapport à l'emploi. Voilà. Ça, c'est la façon dont sera noté le critère emploi. Donc, vous allez voir que l'emploi, par exemple, les 5 autres critères sont nominaux, n'ont rien à voir avec les projets concurrents. Concurrents au sens pour entrer dans la liste prioritaire, mais le critère emploi est un critère proportionnel, c'est-à-dire où les projets seront en concurrence entre eux. Voilà. Donc maintenant je pense que Ephrem va aller sur le site live, donc le site lui-même, et donc on va voir s'il y a besoin de traduire ou bien si vous allez comprendre par rapport au site. Ephrem, just one question: is the online version also bilingual? English, French?
No, currently it's not.
Ah, okay. Bon, peut-être que ça c'est une difficulté. Le site n'est pas pour le moment bilingue. Il est seulement anglophone. Donc bon, allons voir déjà si c'est assez facile à suivre. So we hand over to you, Ephrem.
Okay. Yeah, sorry, I forgot to mention one of the enhancements of the toolkit that's currently being undertaken is to also make it bilingual with French.
Okay, so on est en train de faire la traduction, donc le site sera aussi disponible en français dans le upgrade. Okay, Ephrem, go on.
Yeah, so this is the homepage of the toolkit, and the 4 modules are like I said. And one has to, in order to estimate jobs and then access the projections, one has to have one has to register and have access, have an account to be able to play with estimating jobs. So we have quite a number of users already registered and using the toolkit. So I'll just first of all log in. And I think I should use a different. I need to share a different screen. Sorry about that. Can you see the screen now?
Can you see the homepage, Krishna? Hello? Hello, Krishna?
Yes, it is visible, but very small italics.
We can see, I can see something called increased font size, something like this.
Okay, just hold on. I think I have a challenge here.
How about now?
Yeah. So I can, but maybe you need to zoom out so that we can see the whole screen. We can see only a part of it.
You cannot see the whole thing now?
No, we can see the left and right part are hidden.
Okay, let me stop sharing and start again.
Okay, maybe the questions and answers can start, and maybe my colleagues.
Okay. So maybe while you sort out the sharing, we can take some. I can see there's already one question in the chat, a long question. Maybe I'll read it and try to translate it. And so the question is from you. Some question toolkit presentation for the presenter. The last two tables on estimated jobs, are they estimated in monetary or labor count units? The input table as shown in the methodology view shows sources from various project activities such as material supply, actual construction, man and machine time, etc. But I can see that the estimated jobs output are shown in the last two tables or in actual job counts. How is this resolved? Actually, yes, good question. But this is the core of what we tried to explain. These are the input-output tables which are used to convert the cost, the monetary values of project cost into jobs. And this is what Ephraim was trying to explain, the benchmarks. That is, we know that from past projects that the hydro dam of this value will lead to so many jobs. So this is the whole conversion of project value into jobs, which is modulated, I would say, by the productivity, the macroeconomic parameters of the country. Unless maybe other members want to add something.
Yes, you are right, Krishna. That's how the number of jobs are estimated. But also in terms of units, in addition to having the absolute number of jobs, we also want to try, we also have a second tier of job estimates, which is estimated in terms of the number of job years, because we want to also be able to quantify the sustainability of those jobs that are going to be created in terms of having the job years, rather than just having the absolute number of jobs. Because the number of jobs will be created will differ on the stage that a specific project is on the various stages of the that the project will go through. Some of them will be temporary and some of them will be long term. So hence the other unit which we use, which is the number of job years.
Okay, thank you. Thank you for the clarification, Dish. Any other inputs? If not, I think Jean-Baptiste has a question. So the question from Jean-Baptiste Lutabazi from Comesa is the following: is the toolkit applicable for feasibility study, given that some inputs will be known after the feasibility study? So Tish, you want to answer this?
Yes, it will be applicable for all the project, for the whole project preparation cycle from concept, because that is at the concept stage, at least if you know the capital cost of that project, we can then use the industrial benchmarks to estimate the rest to break down that capital cost into the various components of the data inputs that are required for at least to have an estimate of jobs. But as and when those estimates are refined, when the project goes through the project preparation cycle and we get more detailed information as a result of the feasibility study, we can then later on refine the job creation estimates based on the outputs from the feasibility study. So yes, it can be applied throughout the whole project preparation cycle, from planning even all the way up to conclusion of the feasibility studies. The good thing about the toolkit is that it enables us now to develop infrastructure projects in a holistic manner, where we also are able to anticipate the number of jobs and the skills that will be required for the job, for the development of the project from the concept stage. And then we will then be able to work with the other relevant sectors, which are necessary to make sure that by the time that project breaks ground, those projects those sectors would have been well prepared to make sure that the interventions that are necessary for us to maximize the number of jobs have been put in place. Because one of the critical challenges that we have been having is that even though projects have a local content policy, you know, the contractors can always argue that those local content policy requirements and cannot be fulfilled because there's no adequate local capacity to supply the inputs to the project. But if these are systematically developed as the project is being prepared, then that argument falls off, because we would have given the member states sufficient time to create that enabling environment for them to insist on the local content requirements that maximize the number of jobs for infrastructure projects.
Yes, thank you. Thank you, Tish. Je vais peut-être résumer rapidement pour nos amis francophones. Alors, la question de Comesa, c'était comment est-ce que à quelle étape, en fait, même à l'étape de faisabilité, comment est-ce qu'on peut évaluer le coût? En fait, un des paramètres, je dirais, capital, le paramètre le plus important, c'est le coût du projet, qui d'ailleurs est utilisé pour autre chose, hein, pas seulement pour les emplois, c'est aussi utilisé pour les émissions de carbone, de gaz à effet de serre, tout ça. Donc, quand on a un projet, il faut au moins avoir une idée, une estimation du coût qui va être utilisé dans un premier temps pour évaluer le nombre d'emplois à travers les benchmarks. Et il y a aussi cet élément de planification des ressources humaines, je dirais. C'est-à-dire que même à l'étape de pré-faisabilité, de faisabilité, on aura une idée du type de compétences, de métiers, de techniciens, d'ingénieurs, etc., qui seront requis pour la phase de construction et la phase d'opération, qui permet aussi au pays, aux États membres, de se préparer, de former des gens, de recruter, etc., pour être prêt, en fait, quand le projet va être lancé en construction, en opération. Voilà. Alors, so I hope Jean-Baptiste, that answers your question. Maybe if you want to intervene, you're free to do so. Jean-Baptiste, are you there?
Thank you very much. I am there. Okay. So my name is Jean-Baptiste Mutabazi. I'm Director of Infrastructure and Logistics in COMESA. I am asking this question because we have a project which is at the stage of feasibility studies. And I understand now that is if we give only the cost of a project, but the only problem I have, if we have only a cost, an estimate cost of the feasibility studies, and we don't know the cost after the design and everything, will it be easy to estimate the number of the job which will be created? Maybe if I explain this, the main reason I am asking this question is when we are doing selection of a project, because it is now a project is related to a feasibility study. We have not yet passed the phase of construction, implementing, and so on. But we are only on feasibility study. How are you going to apply the selection criteria if we give you only the cost of estimate of the feasibility study? Thank you. Over to you.
Yeah, maybe I'll try and then I will let the other members reply. I think that if really we are at feasibility or pre-feasibility studies, you will always operate within a range, actually. Let's take a simple example. Suppose we're doing a dam, a hydro dam. Depending on the type of dam, run of the river or storage dam, whatever, the costs, for example, for a dam ranges from $2 to $7 million per megawatt of capacity, electrical capacity. So in that case, the maybe the type of dam will be used as a further refinement of the job estimate. And then we could end up, if really we have a range in input, we could have a range in the output of jobs. So we could then say that the jobs could be between so many, 10,000 to 20,000 jobs, depending on the actual cost of the project. So I think that is one first answer. Maybe Tish, you have some elements?
Yes. The reason why we decided to use the benchmarks to estimate the number of jobs is that the benchmarks tends to overestimate the number of jobs. So for example, if you've got a project which has got which is at an advanced stage, which has got all the detailed breakdown of the capital costs, and then you use those actual figures, the toolkit will be conservative in the estimates, and that project may receive a lower score than a project which is at an early stage with just the capital cost, and then we use the benchmark. So we want to use the same basis for estimating all the number of jobs for all the projects. That is why we are going to be using the industrial benchmarks, so that at least we rate and rank projects on an equal basis. So for this exercise, the capital cost estimates will suffice for us to be able to do a preliminary estimate of the number of jobs. However, when we are now implementing the project, we can then do a more detailed assessment of the number of jobs, which is more specific to that specific project and tailor-made for a specific project.
Okay. The
question from the director was if it is possible to only supply the preparation cost and not the construction cost to be able to estimate the project. I think that's how I understood the question. And I think the answer is no, you must have at least an estimate of the construction cost.
Yes.
Of the project. Otherwise, the toolkit will not work with only the feasibility study the cost for the feasibility study. But I think it's understood that when any project is proposed, you must have some idea, however rough, how much the construction cost would be. And that will be the basis for the estimation of the jobs.
Yes, thank you. Thank you, Efrem.
Thanks, Efrem. Mm.
So I think pour les nos amis francophones, en fait, la question de Jean-Baptiste portait sur en fait le si un projet est seulement à l'étape d'étude de préfaisabilité, comment on peut évaluer. Et la réponse c'est que il faudra de toutes les façons, comme j'avais dit aussi, il faudra même pour d'autres critères autres que l'emploi. Il faut une estimation du coût du projet de toutes les façons. Et c'est ce qui va être utilisé. Alors, cet outil peut être utilisé à différentes étapes. À cette étape, en fait, à l'étape de sélection d'établissement de la liste prioritaire, l'approche conservateur qui va être utilisée, qui permet de ne pas pénaliser les projets, c'est d'utiliser en fait les benchmarks qui met tout le monde, tous les projets à la même enseigne. Sauf si un projet a atteint une étape très avancée où on a des données très très pointues sur les coûts, là on va bien sûr, on pourra utiliser ces données, mais cela n'empêche pas que à d'autres étapes, quand le projet est en phase d'exécution, on peut utiliser l'outil, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus pointue, pour affiner les chiffres de création d'emplois et de potentiel de création d'emplois. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé à différents, je dirais, niveaux, mais on va l'utiliser dans un premier temps pour avoir une vue, je dirais, cohérente, cohérente à travers tous les projets pour avoir une estimation, je dirais, non biaisée du potentiel des créations d'emplois des différents projets dans le pool. Okay, so I think we can move on to the next question. There is a question from Laurine Catillo. Still on the jobs, can you expand on the estimation of the secondary jobs? At which tier does one stop? I noticed that the Bakota table had no figures under secondary jobs. So maybe Tish or Efrem?
Let me take the slide. Tish, do you get the question?
Yeah, the question is, on the jobs, can you expand on the estimation of, estimation of the secondary jobs, at which tier does one stop? Because you realize there are several tiers. We can go secondary jobs or secondary jobs, etc. So where do we stop in this process?
Okay. Yeah. You can go ahead, Efrem.
Is this a slide that the question is referring to?
Yes, that's the slide, I think.
Yeah. So, Tich, you can go ahead and explain.
I'm not sure I understand the question, but as you can see from the slide, I see what you're saying. I think the secondary
thing that's a problem.
Okay, so the secondary jobs are estimated. These are the job estimates that will be created post the construction phase of the project as a result of the existence of that infrastructure project. For example, in this case, for the Batoka Gorge, these are the jobs that will be created due to the use of the electricity that will be generated. So for these estimates, we will not have secondary jobs for the project preparation, construction, and operation and maintenance phase, because those are estimated separately. And so we have a separate estimate of the number of the secondary jobs, which in this case is 24,000 jobs. However, these are only estimates. The main point is that governments and project developers who have to develop specific interventions, targeted interventions, that will ensure that these estimates are realized. And so the job creation estimates, as well as the scenario analysis, helps the governments and the project developers to develop specific sector-focused interventions which are targeted at those sectors that have the potential to create the highest number of jobs. For example, for secondary jobs, then you can then have investment incentives, in the case of Zimbabwe and Zambia, targeted at the agriculture, mining, and industrial sectors. Because now you have they will have access to cheap and affordable electricity. I hope that answers the question. Ephraim, you can also add if I've missed anything.
No, I think you have covered it well.
Yeah. So, alors la question peut-être je répète, je résume la question, c'était dans le cas du Batoka Gorge, le barrage présenté. Il n'y a pas de, on voit pas de d'emploi secondaire pendant la phase de construction, etc. L'explication est simple, c'est que c'est dû en fait, les 24 000 emplois sont estimés, sont dus à l'effet de l'utilisation d'électricité qui va être produite par le barrage. Donc c'est pas lié à la construction, ça a été évalué séparément. Mais en fait, ce qu'il faut aussi faire ressortir, c'est que ce n'est qu'une indication, en fait. C'est-à-dire que l'État, les décideurs politiques savent qu'il y a un potentiel de créer 24 000 emplois en utilisant l'électricité de ce barrage, mais ce n'est pas automatique. Je veux dire, c'est pas... il faut faire très attention avec les emplois secondaires. Il y a d'autres choses à mettre en place, le cadre, les secteurs qui vont consommer et tout. Il y a des mesures d'accompagnement à mettre en place pour que ça se réalise, je veux dire, c'est juste une indication, c'est pas forcément une automatique, quoi. C'est ça il faut faire attention. So, I think we can move to the next question from Mure. Mure is asking on the use of job creation potentials to select and screen projects for selection. The question is, will there be an attempt to incorporate inclusivity, especially as it relates to women and youth employment? So maybe Tish or Ephraim, does the tool at this stage model specifically youth employment and women employment, gender segregated youth employment data? That is the question.
Ephraim, I think you can have the first call, especially in view of the toolkit enhancements that we are working on.
Okay. No, at the moment, no. But it is one of the requirements of the enhancement exercise that I said we would like the toolkit to also disaggregate the jobs, the estimated jobs by gender and some demographic parameters.
Okay, thank you, Ephraim.
So at the present moment, the toolkit disaggregates the job creation potential by economic sector, as you have seen from the slide that Ephraim showed. And I think, like I said, that the heavy lifting actually is in the interpretation of those estimates that are coming out, when the governments would then develop specific interventions, which in this case will include mainstreaming gender and women and youth employment in the local content requirements. So those are policy interventions that will have to be developed outside of the toolkit itself. However, we as Ephraim has mentioned, that we are enhancing the toolkit so that we will give us some estimates to guide those the development of those policy interventions for the specific projects.
Okay, yeah, good, good. Thank you, Tish. So, bref, résumé rapide en français, la question de Mouret porte sur en fait le est-ce que l'outil permet de évaluer les emplois jeunes pour les jeunes et les emplois par rapport au genre. La réponse à ce stade, non. À ce stade, l'outil ne fait que estimer les emplois par secteur économique, mais l'amélioration en cours prend en compte cet élément de l'emploi jeune et de le genre. Et aussi, il faut faire ressortir que, en fait, c'est très important, en fait, de faire ressortir que c'est les politiques, c'est le rôle des décideurs politiques de mettre les besoins ou les thresholds, comme on dit, donc les seuils à respecter par les entrepreneurs, les entreprises dans le secteur de la construction ou les développeurs de projets en termes d'emplois jeunes et d'emplois équilibrés par rapport au genre. Donc, voilà, pour le moment, l'outil ne distingue pas. So, maybe we move to the next question from Khaled Eljandi. Who will do this exercise? So, colleagues from AUDA, up to you.
Yeah, so for this exercise, we will do it from my end. And
maybe you need to say who is we actually, who is the we, which team?
African Union Development Agency, the team from the African Union Development Agency.
Okay, thank you.
So we will do the estimates and then we will load them onto the PDAPAP2 website. But when it comes to the implementation phase, of course, we will do this thing we will work closely with the project management unit responsible for the coordinating the implementation of that project at national level, so that at least there is ownership of the job creation estimates as well as the interventions that are going to be developed out of this.
OK, thank you, Tish. Donc, la question de Khaled demandait en fait qui va faire cet exercice d'estimation. La réponse est que c'est les experts, nos collègues de AUDA NEPAD, donc Tish, Ephraim et d'autres qui vont se charger de faire cet exercice d'évaluation parce que c'est les experts, c'est eux qui connaissent mieux cet outil, qui sont en train de développer. OK, so il y a une question en fait en français que je peux reprendre tout de suite, c'est la question de
Allô?
Yes.
Pardon?
Hi, yes, Khaled. Yes. Does that answer your question? Is that Khaled?
Yes. Yeah. C'est Hani mais dans l'appareil de Khaled, ça va.
Yes,
What I was asking here regarding who will do this exercise, because I think that some details as in some projects are not present yet, and I don't know if the people who will from AUDA who will fulfill or who will do this exercise have the full information. As a continuation of Dr. Mutabasi's question, some projects are very early stage. So how can we contact you to give you the information that we have in order to do this exercise? Because all what we have here are a rough estimate of, for example, on a feasibility study project, which is in a feasibility study phase, all we have to do is an estimate without a breakdown, an estimate for the preparation, the implementation, and the design. So this is all what we can have is estimates now. So how to communicate them to you? Because it's not very much clear in the submission form where we can put it in order to give it to you to continue this exercise. This is why I was asking this question, because this will not give a full chance for projects that are starting.
So Tish, maybe you have a go first and then we can add something.
Yes, I think on this one, Krishna, I tend to be guided by you, especially on how the participants can upload additional documents on the project that they're supporting on the PDAPAP2, proposing on the PDAPAP2 website. But for the estimation of the capex of the project, let's say, for example, that you only have an estimate of the project preparation costs, I think it's important that we will have then to liaise with you on how we will estimate the capex based on that cost, because we already know that there are industrial benchmarks on the proportion, but the percentage of the project preparation costs constitutes of the total capex of a project. So we can always work it out from that perspective. The other angle that we could also use is that if we know the size or the capacity of a specific piece of infrastructure, we already know the industrial benchmarks for the construction cost per megawatt for power projects, or per kilometer for power transmission projects, or even roads. So we can then also have a rough estimate of the total capex of the project based on that information. But I think for the project developers, it's key that if, where possible, if you know the capital cost of the project, please supply it in the information that you are uploading on the website. But so if you don't have the information, we can always work with you to come up with a rough estimate.
How can we upload some documents that can be useful for you?
So that, I'll leave that to Krishna and Ephraim to at least to provide guidance on that one.
The submission form, there is already a provision to upload additional documents.
So you will notice, maybe I can complete the answer. We have kept actually the submission process very simple. So it's the simplest form of submission is the title. You will notice actually for those who are registered, who have tried to submit projects, you will see that, and I think Dr. Tiny, you have access to one of the projects. You will see that it's very simple. You just need the basic title of the project and then the size of the project, the capacity of the project, if it's a road, the number of kilometers, if it's a transmission. As I said, if you happen to have additional estimates or studies, or you can upload. So there's a provision to upload files. You can upload up to two or three files, I think, or you can combine and upload a larger file. There's a lots of provisions to upload the maximum amount of data information, so that then the team, the task force, the AUDA colleagues can then go through these documents. And if need be, of course, we will get in touch with you. We'll clarify. This is not a one-way process. Right? It's a continuous dialogue. If we have doubts, we will get back to you, ask questions, and then we will find out the best estimate for the jobs, for example, and then go ahead with this.
Okay, thank you very much. Thank you very much, Dr. Krishna. Yeah. And thank you very much, Mr. Peach. Thank you.
Thank you.
You're welcome.
Alors, peut-être pour nos amis francophones, la question c'était qui va faire l'exercice. Ça va être fait par AUDA. Et il y a sur le site, vous allez remarquer, il y a la possibilité de télécharger, de upload en fait des documents. Donc, si vous n'avez pas de documents, pas d'études, etc., disponibles, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut à ce stade, c'est la capacité du projet. Et si une estimation très 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 préliminaire, même si vous n'avez pas d'estimation préliminaire, ce qui va être fait en fait, la méthodologie adoptée sera d'estimer en fait le coût du projet à travers les benchmarks. Et ça, ça va être fait en consultation avec vous. On va tomber d'accord. On va estimer en utilisant les benchmarks le coût approximatif du projet par rapport à la capacité du projet. Voilà. Donc, il y a une question de... Oui, Alpha Oumar Ba. Si vous êtes en ligne, peut-être vous pouvez poser la question. Je n'ai pas bien compris en fait la question à Alpha Oumar Ba. Vous êtes peut-être vous pouvez poser en direct votre question, comme ça on va en rester dedans.
Oh bon, ma question est la suivante. Je me demande si vous me recevez.
Oui, on vous reçoit très bien.
Allez-y. Ok, ma question est la suivante. C'est dans le cadre de l'emploi temporaire, parce qu'en général, vous savez, dans les pays en développement, il y a souvent un volet où il faut temporairement employer des gens. Et si éventuellement, dans cet emploi temporaire, est-ce qu'on peut le prévoir dans le projet? Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, est-ce que, avec le retard de financement, par exemple, ton projet, où l'instabilité monétaire joue beaucoup dans la plupart des différents pays, et un projet, une fois il est calé, l'argent est calé. S'il vient, il y a une hausse quelque part. Qu'est-ce que vous en dites? Comment corriger ces défaillances? Je sais que c'est ma question en général. Je me demande si on s'est compris.
Non, il n'est pas venu. Il y a un peu de temps de vie, il est au niveau de...
Allô? Ok, on a bien compris. Attendez, il y a une autre personne qui parle. Ok. Alors, la question de Alpha Oumar, c'est par rapport aux emplois temporaires. Ensuite, il a mentionné la question d'instabilité monétaire au cours du projet. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, les emplois temporaires sont justement ce qui est modélisé dans les emplois de construction. Hein. Dans la phase de construction, il y a des emplois à court terme, des emplois des activités de construction et des activités connexes de support à la construction. Après, on passe à l'étape d'opération, etc. Donc oui, justement, les emplois temporaires sont les emplois qui sont créés pendant la phase de construction, donc c'est modélisé. Pour ce qui est des instabilités monétaires et tout, bon, à ce stade, on est en train vraiment de sélectionner les projets. De sélectionner les projets et de les prier, de faire une liste prioritaire de projets. Donc, la question d'instabilité monétaire, tout ça va se poser effectivement, mais après. Hein, je pense qu'on ne modélise pas à ce stade les problèmes éventuels d'exécution du projet qu'il pourrait y avoir, mais ça, c'est à gérer au niveau de la situation dans chaque pays, je pense.
Ok, merci quand même. Il n'y a pas de problème.
Ok.
Oui, merci de la réponse.
Ok.
Bonjour. D'accord. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, qui parle?
Monsieur Krishna?
Oui.
Oui. Bonjour à tout le monde. Ma question est par rapport à la sélection, à la présentation du projet.
Oui, M. Hassan Bouti, c'est ça, du Maroc?
Oui. Oui, je suis à Lima.
D'accord. Allez-y.
Nous savons que les pays vont présenter des projets. Le projet doit mentionner, par exemple, le nombre de postes et le coût du projet et d'autres détails. Et les REC, après, les REC vont sélectionner une liste de 10 projets, c'est comme ça. Ils vont me corriger si je me trompe. Cette liste de projets, ma question, c'est à propos de nombre de ces projets que les REC vont présenter. Si seulement 10 projets, nous savons qu'après ces projets vont être évalués par les experts de l'ODA et des agences de l'Union africaine. Donc, supposons qu'il y a des projets qui ne vont pas être retenus. Est-ce que les REC ont la possibilité de les remplacer? Juste c'est pour garder le quota des projets par région, par exemple. Merci.
Non, en fait, c'est plus simple que ça, M. Hassen. En fait, peut-être, il faudrait que je résume en fait, le processus. Comme en fait, je réalise dans la région Nord, vous n'avez pas eu bénéficié de la formation face à face, à part ces sessions live. Alors, en fait, et ça s'applique, en fait, c'est valable pour toutes les régions. Hein, donc, c'est ce que je veux vous dire est aussi valable dans toutes les régions. C'est très simple, c'est que les REC, le rôle des REC, en fait, se joue uniquement au niveau des plans directeurs régionaux. Donc, il ne faut pas oublier que ce projet, l'objectif majeur, c'est l'intégration régionale. Et l'outil, le partenaire privilégié pour l'intégration régionale, c'est les REC, c'est les Regional Economic Communities, les CER, comme on dit en français, les communautés économiques régionales. Donc, le seul rôle des REC, c'est de s'assurer que ces projets, les projets individuels, sont en fait des projets régionaux. N'oubliez pas que PIDA, c'est essentiellement concerné par les projets de cross-border, donc qui implique plusieurs pays d'intérêt régional, qui figure dans le plan directeur du REC, dans le master plan, soit où il y a un accord assez clairement exprimé de différents pays qui vont participer de ce pays, de ce projet. Donc voilà le seul rôle des REC. Le REC n'a pas en fait l'autorité de. Le REC peut valider en fait. Le REC valide, dit oui, moi je confirme que ce projet figure bien dans mon master plan, etc. Voilà le rôle des REC. Maintenant, il n'y a pas de limite au niveau des REC. Le REC ne limite jamais le nombre de projets. Plus vous soumettez de projets, plus c'est bien, plus ça rentre dans ce qu'on appelle la longue liste, la longue liste de projets. Alors, un projet n'est jamais éliminé. La seule façon d'éliminer un projet, c'est les deux critères éliminatoires dont j'ai mentionné. Est-ce que le projet figure dans le REC, master plan, ou est-ce que le projet est régional ou pas? Dès que le projet est jugé, prouvé, démontré d'intérêt régional, elle rentre dans la longue liste et elle reste dans la longue liste indéfiniment. C'est impossible d'éliminer le projet. Maintenant, cette histoire de liste prioritaire, c'est quoi? C'est au niveau de la région. Donc, même pas REC. Allons prendre votre cas précis. Donc, vous êtes de Houma, vous êtes un REC, mais dans la région Nord, vous avez aussi l'Égypte qui est membre de la COMESA, par exemple. Mais donc, la sélection dans la région Nord va se faire dans le pool Nord, donc dans le pool qui inclut tous les membres de Houma et l'Égypte, par exemple, de la COMESA. Et c'est là qu'on établit la liste prioritaire des 10 projets. Donc, ça ne veut pas dire que le 11e, 12e, 13e, 14e projet seront éliminés. Les projets restent. Allons dire demain, dans les 10 projets, il y a 3 qui bougent. Donc, je veux dire qu'ils passent à l'étape de financement, d'exécution, etc. Automatiquement, le 11e, 12e, 13e projet remonte dans la liste. Donc, à tout moment, on a 10 projets qui sont actifs, je dirais sur lesquels les projecteurs sont braqués, dans chaque région. Voilà un peu l'esprit de PIDA. J'espère que ça a aidé à comprendre un peu.
Merci, M. Krishna. C'est très important.
D'accord. Alors,
Krishna.
Yes.
Krishna Boudi, Maroc.
Yes.
Okay. Can you also clarify that the power pools, the power pools and the river basins, and sort of our regional institutions can also submit projects?
Yeah. Okay. Je vais. Merci. Thank you, Abdou. Alors, c'est pas seulement les REC. Dans les institutions régionales, il faut aussi inclure tout ce qui est power pool. Donc, EAPP, WAP, etc., qui sont habilités à soumettre, à valider les projets, parce que c'est des organisations d'intégration régionale aussi. Dans le domaine de l'énergie, c'est les power pools. Dans le domaine de l'eau, c'est les river basins. C'est ce qu'on appelle ça en français, les organisations de comme Congo, Tchad, Lac Tchad, etc. Ok, donc je vois il y a quelqu'un qui a levé la main. Donc peut-être avant de faire ça, je vais peut-être I'll maybe quickly summarize in English what the question from Uma from Asen Buti was. We clarified that the role of REX is to validate that projects belong to the master plans, and that they have a regional character, that is, several countries benefit. There is a proof or evidence that these projects have been either submitted or will benefit several countries. Not only RECs have this function, power pools and river basins also can submit projects and validate projects, regional projects. Then at a different level, the actual shortlisting of projects is done at a regional level, regional pool level. So each region, all members of the regional pool, and the definition of region is the official definition of African Union, which you can find on the website. You can download from the website the members of each region available from the website of African Union. This is the formal definition of members of a region. And these, all the projects submitted within a region will compete to become part of the short list of 10 projects. So at any point in time, there's a live, I would say, short list of 10. As soon as projects graduate to implementation or financial close, other projects in the long list are upgraded into the short list. So that was the explanation of how projects are managed within regions and RECs and regional organizations. So I think we have a number of questions in the chat, and somebody has raised a hand, iPad, I think.
Bonjour, Monsieur Krishna.
Yes.
C'est Benabou Dimarok, si vous pouvez me donner un petit moment pour poser mes deux questions.
On vous écoute, Monsieur Benabou.
D'accord. Donc, pour moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est que les projets ne sont pas toujours dans la même phase de développement. Il y a des projets qui sont en phase très avancée de développement. Ils ont donc des données nécessaires sur les emplois, le coût, la répartition régionale des coûts, etc. Par contre, d'autres projets ne sont pas avancés et n'ont pas la disponibilité de ces données. Cela va pénaliser ces derniers projets qui ne sont pas avancés. Ma question est comment en tenir compte de cette inégalité entre les deux projets, les deux sortes de projets. Ma deuxième question, c'est pour les interconnexions électriques. Les interconnexions électriques, comme vous le savez, n'ont pas d'impact direct sur le genre ni sur le monde rural, ce qui va les pénaliser devant d'autres projets, malgré que ces interconnexions sont très importantes pour la stabilité des réseaux interconnectés et sur la sécurité des systèmes électriques. Et ce sont deux points forts des réseaux électriques et ça coûte de l'argent si on n'a pas ces deux points pour les systèmes électriques du pays. Merci de donner des clarifications sur le choix de ces projets par rapport à d'autres projets qui ont un impact direct sur le genre et sur le monde rural. Merci, Monsieur Kanja.
Ok, merci pour la question. Très bonne question, en fait. La réponse, elle a été évoquée à plusieurs reprises, mais on a justement adopté une approche très, je dirais, conservateur, très minimaliste, je dirais, par rapport à cette question de projet à différents stades de développement. Et si vous allez voir en fait les projets qui sont soumis, les données par rapport à ces projets et ce qu'on vous demande pour soumettre un projet, c'est une approche extrêmement minimaliste. On ne vous demande, quel que soit le stade de développement du projet, tout ce qu'on vous demande, c'est la capacité. Par exemple, si vous faites un barrage, on vous demande le mégawatt, quoi. C'est tout. On va pas vous demander les détails très techniques sur les études et tout. Donc, vous allez remarquer que on s'est débrouillé pour ne pas désavantager, comme vous dites, les projets à un stade préliminaire. Maintenant, si votre projet est très avancé, si vous avez des études de faisabilité, rien ne vous empêche de soumettre ces données qui va améliorer en fait la compréhension du projet et tout. Mais en aucun cas, les critères, en fait, et là peut-être un bref rappel sur les critères encore une fois, vous allez remarquer que les deux critères les plus importants, même pas de sélection, je dirais de liste prioritaire en fait, hein, parce que les critères d'éligibilité n'ont rien à voir encore avec le projet lui-même, c'est par rapport à la nature régionale du projet, est-ce qu'il figure ou non dans le master plan. Donc, quelle que soit l'étape de le stade de développement, n'affecte pas le projet. Vous allez voir que les deux critères de sélection pour la liste prioritaire sont l'impact économique et l'attractivité financière. Dans les deux cas, qui valent respectivement 25% et 20% du poids total de l'évaluation, dans les deux cas, ça n'a rien à voir avec le projet, en fait. C'est dans un cas, dans le cas de l'impact économique, c'est lié à l'index, ce qu'on appelle le AIDI, l'index de l'infrastructure, donc rien à voir avec le projet, et dans le cas de l'attractivité au secteur du projet. Donc, pour répondre à votre question, non, c'est presque impossible en fait. Les critères sont conçus de telle façon que quelle que soit l'étape du projet, une fois que vous avez une idée claire du projet et la taille du projet et quelques éléments de base sur le projet, c'est possible, vous n'allez pas être pénalisé. Maintenant, votre deuxième question par rapport à l'interconnexion électrique et la relation au JA et au monde rural. Ben, je dirais au monde rural, oui. En fait, c'est là que, je dirais, ces deux critères sont prescriptifs dans le sens que les critères sont conçus justement pour, allons prendre l'exemple du monde rural, connectivité rurale, ça s'appelle. C'est-à-dire que quel est ce critère? Ce critère dit, essaye d'évaluer. Encore une fois, c'est un critère qui est proportionnel. Donc, ça va mettre en concurrence les projets dans le pool régional. Ce critère dit, quel est le projet qui permet de toucher un maximum de personnes dans le monde rural? Allons dire, vous faites une ligne de transmission électrique qui connecte deux grandes villes, mais qui le tracé de cette ligne de transmission à haute tension a été faite de telle sorte à aussi prendre en compte, si vous voulez, les populations locales des zones rurales. C'est-à-dire que s'il y a un choix qui est fait exprès de transiter par des zones où éventuellement dans le futur on peut imaginer des sous-stations de transformation pour alimenter ces zones, à ce moment-là, on peut argumenter que les populations rurales touchées seront plus importantes et ce projet va scorer mieux sur ce critère. Pour ce qui est du critère JAR, il faut noter que ces critères sont uniquement liés au procurement, donc à l'achat, donc en fait aux intentions d'action qui vont favoriser le JAR dans le procurement, donc dans l'achat. C'est-à-dire qu'à ce stade, ce que le projet peut dire, c'est que, je reconnais que dans la transmission électrique, l'interconnexion, c'est assez remote, hein, c'est assez difficile, mais on peut toujours dire que, il y aura des actions de formation de techniciens, femmes ou filles, jeunes filles qui vont être formées pour s'assurer qu'il y ait au moins 30% des cadres ou des techniciens dans la phase de construction qui seront des femmes. Et ça, c'est un peu lié au collègue Tisch qui disait que c'est un peu à l'État de mettre ses seuils, en fait. C'est très lié à la politique, en fait, hein, de l'État, pour dire. Mais les critères, comment dirais-je, les critères prévoient, en fait, ce volet pour permettre à l'État de favoriser en fait ces actions. Voilà. J'espère que ça répond un peu à la question. Merci. Allô, Monsieur Benabou. Oui. Ok.
Oui, merci.
Bon, je crois que on va passer à d'autres questions. Sinon, je vois il y a 8 messages dans le chat. Donc, sinon, on n'aura pas le temps. Donc, la question de Monsieur Dr. Zakaria Kingori to everyone. I think the toolkit computes the job if the cost of construction of a particular project is known. The cost can be estimated even from pre-feasibility. Yes, okay, en fait, c'est une clarification. This is a yes, thank you, doctor. It's a clarification that we already covered that the costs can be estimated even at pre-feasibility stage. Khaled wanted to intervene. I think we've done that. Okay, we've seen Ben Abu question. Yeah, so actually my colleague Alex, we would like actually to inform you, our colleague from Global Water Partnership, Alex is online. So we the whole team actually, Alex and his team and our colleagues from the task force, Urushulai and all, we are organizing actually for next Thursday, 14th of May, a thematic webinar on the water sector, on the water PIDA sector. So what is the, then the, I think the next question, what is the process for uploading continental projects that cover many RECs? Okay, so maybe I'll answer that one. There is a provision actually many RECs is not really an issue. It's many regions actually. We even have projects that span across two or three regions. So the task force members, once all the projects are submitted, will have a special category of, I would say, Pan-African projects that span across several RECs and regions. And these projects will be over and above the quota. Somebody else want to intervene? Okay, I think that answers the two questions. I can see an echo. So maybe il y a une question de Didier Yayi. Je crois que pour la CDAO, ce que nous avons retenu, c'est que ce soit la CER qui soumet les projets sur la base des plans directeurs et des plans prioritaires, mais en tenant compte des quatre secteurs. Oui, effectivement, Monsieur Didier, on est en contact avec Chris Apia de la CDAO. Et effectivement, ils ont un rôle très, très proactif. Ils sont en train de coordonner avec tous leurs membres pour établir la liste de projets à soumettre. Mais en fait, il y a aussi, je crois, une ouverture, une possibilité pour accélérer les choses. Il faut reconnaître que nous sommes dans une phase extrêmement difficile actuellement de communication, avec le Covid et tout, avec les lockdowns. Donc, si vous voulez aider dans le processus, je vous invite à vous approcher de M. Chris Apia. Il y a la possibilité, en fait, l'outil, le site web, inclut la possibilité aux États membres de soumettre eux aussi, mais en coordination, en consultation avec le REC. Donc, on vous invite fortement à vous approcher de M. Chris Apia pour accélérer ce processus et pour éventuellement, on pourra vous donner aussi les droits de National Focal Point pour pouvoir soumettre les projets en consultation avec la CDAO et COAS. Yacouba, yes. Donc, notre collègue Yacouba de l'Union africaine a posté sur le site l'adresse où vous pouvez télécharger la liste des États membres par région. Merci, Yacouba. Donc certains membres sont en train de partir. Hope you receive the Zoom link. Ok, donc comme je vous ai dit, le prochain webinar, en fait, thématique va être pour le 14. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, l'informatique en fait ne donne le lien que la veille. Mais sachez que c'est confirmé. Vous pouvez déjà mettre ça dans votre calendrier. Jeudi prochain, même heure. Donc, même heure, c'est 10h GMT jusqu'à pendant 2h. Donc, le lien est actif une demi-heure avant pour tester. Et on va faire la session thématique. Et j'invite en fait tous les collègues francophones pour mardi. Donc, mardi prochain, on aura la session, je dirais, pure francophone. Donc, tous nos amis du Maghreb, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, si vous avez des questions précises ou des projets que vous voulez discuter, des thèmes précis, donc la session du mardi prochain sera dédiée francophone. Et la prochaine, c'est le mardi d'après, ce sera anglophone. Comme ça, on va pouvoir aller plus en détail par rapport aux pays francophones ou anglophones. Donc, mardi prochain, francophone, jeudi, thématique. Et voilà, donc en fait, je crois qu'on a épuisé la liste des chats. Et je vois une main qui est toujours levée, iPad, je ne sais pas qui c'est. Vous voulez poser votre question? La personne qui s'appelle iPad, qui est enregistrée comme iPad. Allô? Hello, iPad? Non? Bon. Maybe. Monsieur Mason, Mason?
Pour la session de mardi, et c'est oui. Compris, c'est d'Afrique centrale aussi, parce que vous avez cité...
Oui, tout à fait. Tous nos amis francophones, tout, les îles et tout.
Voilà.
Tout le monde, hein, voilà. Tout le monde. Non, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, mais ce sera francophone. Okay. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le... on pourra en fait passer du temps à bien expliquer en français. Il n'y aura pas besoin vraiment de traduire. Voilà. Non, tout à fait. Merci. Oui.
iPad.
Yes. Hello? Go on, Mr. Maybe you can introduce yourself, Faro, quickly, where you are from and your name.
Allô?
Oui. Allez-y. On vous écoute.
Voilà. Moi, j'ai deux questions.
Oui.
Je résume en une seule.
Mais peut-être, qui vous êtes et de quel pays? De ce
Mali.
Oui, de quel pays?
Mali.
Ah, du Mali. Allez-y, monsieur Chenal.
C'est ça. Voilà. On a très souvent parlé de la ceinture verte pour l'Afrique. Pour contrer l'avancée du désert. Bon, si ce projet doit rentrer en jeu, quelle est la région qui doit prendre ça en compte? La deuxième question,
oui.
On a souvent parlé aussi d'un satellite géostationnaire pour l'Afrique. Si ce projet aussi doit voir le jour, qui doit s'en occuper?
Ah. Ok, merci pour les deux questions. Maybe I'll translate for our colleagues. And the two questions from Mali. One is linked to the Green Belt. How is it called? It's called the Great Green Wall, I think, or Green Belt or Green Ceinture Verte. So it's a project to build a kind of green defense from I think Dakar to Djibouti across the desert to slow down the progress of the desert. So it's called the Great Green Wall or Ceinture Verte. So if such projects have to be submitted, who should submit? The second is a satellite satellite geostationary. How is it called? It's a satellite which focuses on a fixed region for Africa. Who again should submit such types of projects? Again, I would say. These two types of projects would fall in the third category, the Pan-African category. So any region, any country taking the lead can take the lead, any region, but they will be evaluated as Pan-African projects. Ce serait alors la réponse, monsieur. Rappelez-moi votre nom, vous êtes monsieur?
Baba Nadio.
Maman Nadio, d'accord. Yes, Abdou. Ok. Yes, go on, Abdou.
The Great Green Wall Project is an agricultural and a climate change project.
Yes.
So how is it going to fit in the four infrastructure?
Yeah, I agree. I agree perfectly, Abdou. It's not, strictly speaking, a PDAP PAP2 project. I agree with you. But
we'll be treading on some other sectors' feet, because I think this has already been taken up. It's a sort of a project that the countries are involved, and the environment and other areas are involving. So we should be mindful in terms of encroaching in other people's stuff.
Perfectly, you are perfectly right. But I guess the question was also related to infrastructure needed in this context, actually, because you know, if you want to build a
that's fine. If part of the infrastructure, because there are certain infrastructure projects that are running through. Hello?
Yes. We are losing you on and off.
Allô?
Oui, allez-y. Qui parle?
Ouais, et vous pouvez traduire ça en français?
Oui, oui, donc je vais traduire en fait. En fait, notre collègue Abdou, qui est un membre du Task Force, nous rappelle que, strictement parlant, la muraille verte n'est pas un projet qui tombe sous les quatre secteurs de PIDA, qui est transport, énergie, eau et télécommunications. Bon, peut-être que l'autre projet tombe sous le projet du satellite géostationnaire en termes de communication, qui pourrait éventuellement former partie du secteur de TIC, et pas forcément la muraille verte telle qu'elle. Donc, en fait, il y a d'autres instances, en fait. Il y a une instance très spécifique qui s'occupe de la muraille verte, qui pourrait être approchée pour soumettre des projets liés à ça.
Voilà. D'accord. Merci.
Masonama, j'aimerais ajouter pour le deuxième volet sur l'existant, en fait, en ce qui concerne, disons, le lancement de satellites, il y a une agence spatiale de l'Union africaine qui est mise en place déjà et qui s'occupe de ces questions. Et en plus, sur les questions d'infrastructure, au-delà des aspects éthiques, sur la question, il y a un projet qui aujourd'hui en cours, EGNOS for Africa, qui a vocation d'être apporté à l'agence spatiale et qui va s'occuper de ces questions, notamment sur les aspects augmentation pour améliorer la navigation, que ce soit dans tous les modes d'infrastructure, en fait. Donc là, il y a des projets. Et que dans l'ancien PIDA, il y avait même un volet dans lequel qui est géré par le NEPAD où l'aspect navigation par satellite était pris en compte, en fait. En ce qui concerne l'augmentation des positionnements, en fait, pour les infrastructures.
D'accord.
Au-delà de l'aspect éthique.
D'accord. Merci pour cette précision. D'autres interventions par rapport à ce thème? Nous avons Yacouba, notre collègue de l'Union africaine, qui est aussi en ligne. Mais Yacouba, vous voulez intervenir sur cette agence spatiale de l'Union africaine? Allô? Allô? Bon, je crois que on n'entend pas. Et allez-y. Allô. Allô. Bon, En fait, je crois que on a épuisé en fait la liste des questions. On a une question de notre collègue Manga Meli, qui est aussi un membre du Task Force, qui dit: Is there continuity in terms of people participating in these meetings? Meaning, and they have not participated in the meeting which have been running over there. Okay, en fait, Manga, I think if you're online, I think there's no real continuity in the sense that these are free sessions. Anybody's welcome, is free to join any session. And it happens that I know there are many people who are our regular attendees, which is very, very encouraging. We find a group of people who are systematically connected, which is very good, which enables them to actually follow all these thematic sessions and you know, benefit from it. And of course, we have some new people joining. After each session, I know that many people have subscribe, register on the website. So yes, I think it's a very, very, this is the aim of these webinars, is to be a very open process where you can raise any types of question which is not clear in terms of process, in terms of, you know, administrative questions, or very deep technical questions like we've done today on thematic sessions. So this is the point. There's no real continuity, but it's a voluntary free process for people to join in. And we encourage actually more people to register on the website and to join. Maybe to summarize actually what we need now to, in these very difficult times, COVID lockdowns and all that, what we need is for a maximum of people of focal points, member states and REC focal points to, first of all, register on the website, which gives them access to all the documentation. Second, to participate in these webinars, which is a live opportunity to ask questions, to discuss, clarify questions, and then to start submitting their projects in liaison, in coordination with their RECs, so that there is a further discussions which can happen through the discussion forum, which is inbuilt the website. And then that would lead us to a long list of projects which we can then, the task force members can then work on to achieve the shortlist. So I think that from my side, I think that's all. Ephraim, Tish, Abdu, other task force members, maybe if you want to add some remarks on today's session. I think it was a good session, and we've looked at the job creation toolkit, which hopefully has clarified most of the questions, all the questions you had. But this is also, if you have other questions or you have any other types of queries, please don't hesitate. You can write to us using the query function on the website, or you can send a mail to the PDAPAP2 website, or to me, or to any of the contact any of our colleagues, task force members. You also have their contact numbers from the list of focal points we circulated earlier. So we invite you to keep in touch, and hope to see our French-speaking colleagues next Tuesday, and all of you next Thursday for the water thematic webinar. Tish, Ephraim, Abdu,
I think Ephraim does do training on the job toolkit, and I think people who are interested in trying to enhance their capacity in terms of utilization of the toolkit should contact Ephraim or Tish in AUDA so that they can facilitate the training of people to utilize the toolkit. We normally do regional trainings, and it also helps in terms of data collection for some of the related projects that are on the VPIC website.
Yes, thank you, Abdou. Alors, notre collègue Abdou de Aouda nous signale que Ephrem, en fait, le collègue qui a fait la présentation, fait régulièrement des formations. On en a fait plusieurs dans les régions. Bon, maintenant, c'est difficile de faire des formations physiques, mais peut-être que si vous avez des difficultés, d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Ephrem. Et comme je vous ai dit, le point de contact, c'est le site web. Hein. Il faut déjà s'enregistrer. Vous pouvez envoyer toutes sortes de questions, de queries, etc. à travers le site. Comme ça, on va revenir vers vous. L'équipe va revenir vers vous. On va canaliser en fait votre question. Si c'est une question simple qu'on peut répondre, on va la répondre. Si c'est une question assez complexe qui demande l'intervention du groupe de travail, le Task Force, on va référer la question au Task Force. Ils vont délibérer et poster la réponse. On voit une main levée de Baba Nadio. Est-ce qu'on a déjà pas...
Oui. C'est fini.
Ok, d'accord. Merci.
J'ai changé. Au lieu d'iPad, j'ai mis Baba Nadio.
Ah, Baba Nadio. Merci. Donc, je vous inviterai, chaque fois que vous enregistrez, de mettre au moins votre nom, prénom. Comme ça, on peut vous retracer sur la liste des points focaux. Si possible, en parenthèse, le pays. Bon, ça aide. Parce qu'on n'a pas... On a 260 points focaux, donc ce n'est pas évident de mémoriser tous les noms. Mais au fur et à mesure, on commence à connaître certains d'entre vous qui sont très réguliers dans les webinaires. Merci pour ça.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Merci.
OK, donc je crois qu'on est arrivé à l'heure. Il y a certains membres qui doivent partir. On est arrivé, il est 15h à 10, donc 12h GMT. C'est l'heure à laquelle on avait prévu d'arrêter. Sauf si vous avez d'autres questions, le lien va rester actif pendant un moment. Si vous voulez vraiment approfondir ou les questions plus en bilatéral, je dirais, on est là. Sinon, on va clore la session pour aujourd'hui. So unless you have other questions or bilateral questions, we are here. Otherwise, we will close the session for today and invite you all for next Tuesday, our French colleagues for Tuesday and the thematic session, everybody is invited for next Thursday. Voyez une main levée de Réunion DFC. Allez-y, on vous écoute. Allô?
Son micro n'est pas actif.
Oui, justement, j'essaie de l'activer, mais je n'arrive pas d'ici. Comment ? La main levée de Réunion DFC, unmute. Allô ? Bonjour ? Oui, allez-y, on vous écoute, on vous voit même, allez-y.
Merci. Oui. La question que je voulais poser, c'est concernant dans le cadre du projet du Népal,
oui.
Est-ce que vous n'avez pas pensé à la création de zones d'activité industrielle dans le cadre du projet de la ZAL, parce que la ZAL, elle va être commencée normalement selon les accords à partir de juillet 2020. Et pour développer des échanges interafricains, est-ce qu'il n'a pas été pensé pour la création de zones, pour le développement de zones d'activité industrielle au niveau régional, au niveau de région? Est-ce que c'est un point qui a été discuté ou pas? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là? C'est pour la création, des projets, c'est pour la création de zones d'activité industrielle.
OK.
Pour développer la production de marchandises ou de produits au niveau des pays africains.
OK. Merci pour très bonne question. Je vais, maybe I'll translate the question in English so that all the members who are still here can understand. There's a question from, I think, from Morocco. Vous êtes du Maroc?
Non, Algérie.
De l'Algérie, OK. Vous êtes point focal. Focal point from Algeria is raising a question on whether there is a provision in this in PIDA for regional industrial zones to be created for actually, which obviously then are linked to infrastructure requirements, electricity, electrification requirements, etc. So maybe our task force members, Abdou, would you like to intervene on this? What is the scope at this stage for such projects to be? Yeah, Abdou, you want to intervene on this one? Is it outside the scope of PIDA, or can we imagine a project which builds on infrastructure assets, existing or future infrastructure assets, such as ports, roads, railroads, transmission lines, and power stations to develop, to actually exploit the resources to develop industrial zones? Or is it premature? Is it not directly linked to PIDA, but can be a follow-up of PIDA actually, can build on PIDA assets?
Because what you tend to have is the AFCTA. It's also looking at developing markets in various different countries. And to take advantage of that, you'll need an enabling sort of an infrastructure to make sure that markets are developed within that. So yes. I think at this moment in time, within the PIDA framework, I think is the infrastructure that we look at. In terms of the markets and markets development, there are other flagship programs that are supposed to be doing that.
Okay. Thank you for the answer.
Krishna.
Yes.
Krishna.
Yes.
Abdul.
Pontish.
Think we may need to view these industrial parks in the context of the integrated corridor approach, which exactly. Seeks to broaden the impact of infrastructure projects.
I also agree.
So we need to, if there's a project like that, let us be aware of it so that we can see how it links to the PIDA projects, the infrastructure projects that are being planned. And then we can then see how we can incorporate it and in the context of the integrated corridor approach, whilst also taking into account what my colleague Abdu has said, that we would then need to see how we can synergize our work with the other sectors, like the continent of free trade area.
Yeah. Alors, je vais résumer rapidement la réponse qui a été donnée. Oui, le AFCFT et la zone de libre-échange panafricaine est un projet, un flagship project. C'est ce qu'on appelle le overarching, le projet qui résume, qui chapeaute tout. Et c'est la finalité, en fait, d'améliorer surtout par les temps qui courent. Hein. Vous allez voir qu'il y a de par le monde une déglobalisation. Tous les pays sont en train de se retourner entre eux, le Brexit, le Frexit, tout ça. Donc, il y a une volonté de se retourner, de voir en fait, et l'Afrique en fait n'est pas exclue. Hein. L'Afrique, quelle devrait être la réponse? La zone de libre-échange, le marché unique africain est la réponse en fait qui a déjà été planifiée, qui est déjà en place. Les structures, le cadre est en place maintenant, mais il faut les produits. Vous avez tout à fait raison. Comment faire du commerce intra-africain si on n'a pas de produits africains? Donc, il faut déjà les produits. Et moi, je pense que c'est une très, très. Le développement de zones industrielles tombe en fait dans le cadre, peut être pris en compte dans le cadre de PIDA à travers ce qu'on appelle le Integrated Corridor Approach, qui est l'approche de pouvoir intégrer, qui est un des piliers en fait de PIDAPAP 2. C'est ce qui distingue PIDAPAP 2 de PIDAPAP 1. Vous allez voir, plusieurs critères tendent à renforcer ce caractère de couloir intégré de développement. Et pourquoi pas, dans cette optique, pourquoi ne pas présenter, par exemple, une zone industrielle à travers, je dirais, la perspective infrastructure, qu'on appelle le enabling infrastructure. Parce que si vous développez une zone industrielle, d'activité industrielle, ben, il faut bien la relier à un port, il faudra bien la relier à un aéroport, à des routes, à éventuellement un réseau ferroviaire, et il faut bien l'alimenter en électricité. Donc, si vous prenez cette approche infrastructure, enabling infrastructure, des infrastructures qui facilitent, en fait, qui supportent, qui favorisent l'émergence de cette zone, oui, tout à fait, on peut imaginer, on peut voir, et ça rentre tout à fait dans la suite, je dirais, la logique de couloir de développement intégré. Ben, c'est la suite logique, si vous voulez, c'est le bout du puzzle qui manque, en fait, hein, parce que PIDA, c'est bien, on a un réseau d'infrastructures issu de PAP 1, PAP 2 va venir avec d'autres couches d'infrastructures manquantes. Le chapeau, si vous voulez, le cadre global, c'est la zone de libre-échange unique Afrique et FCFTA. Mais le maillon manquant, je dirais, c'est ce que vous venez de dire, c'est les zones industrielles. Donc, tout à fait, si vous prenez une approche, une vue, une perspective qui se raccroche à un projet, je dirais le projet prioritaire qui manque, hein, quelle est la route, la ligne de transmission, la station de la centrale électrique qui manque, ou le port qui manque pour connecter cette zone industrielle. Tout à fait, vous pouvez présenter un projet dans ce sens.
Merci.
Oui.
Excuse me.
Krishna? Yeah, go on.
I think the AUDA team, we have a meeting where they are waiting for us to join them.
No problem. I think we will close in any case. We need to close. We are beyond the time. So let's, if you have other questions, I'll invite you to join the other sessions. I think we will close for today. Thank you for your active participation. Merci à tous les participants. Donc, on vous invite pour nos amis francophones mardi, même heure. Mardi et jeudi pour la thématique sur l'eau. Sur le secteur de l'eau qui, je rappelle, est un secteur un peu négligé qu'on voudrait en fait réactiver dans le cadre de PIDAPAP 2. So, thank you everybody and see you all next week.
Thank you for the questions and for your attention. Thank you.
Bye. Thank you again. Bye.
Thank you, colleagues. Bye.
Bye. Bye.
Bye.
Hello, Krish. Shall I end the meeting?
Yes, Younes. I think we have. Yeah. I think we could because as soon as you end, I will then the recording will start. I think I'll stop the recording so that then it converts and I can post. We can post the file on the website. Please. Yes.
Okay.